Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Monsieur Boris Cyrulnik, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob un livre dont le titre est « 40 voleurs en carence affective, bagarre animale et guerre humaine ». Alors, vous êtes neuropsychiatre, éthologue et l'auteur chez Odile Jacob de nombreux ouvrages qui tous sont d'immenses succès, tels que « Sauve-toi, la vie t'appelle », « La nuit, j'écrirai des soleils, des âmes et des saisons », « Le laboureur et les mangeurs de vent ». Alors, ce livre a en sous-titre « Bagarres animales, guerres humaines ». Il semble très, très pertinent peut-être, vous me direz si vous êtes d'accord, de mettre ce livre en miroir avec l'actualité sanglante.
Oui, malheureusement, vous avez raison. Il faut le mettre en miroir parce qu'il y a plusieurs sources de violence. Il y a une violence qui est due à une carence éducative, une carence affective très précoce, où les petits garçons, plus que les petites filles, apprennent à réagir par la violence. Et cette réaction à la violence, on la partage avec les animaux, parce que ça provoque une dysfonction cérébrale et les petits garçons n'apprennent plus à contrôler leur violence. Mais il y a une autre source de violence, et là malheureusement, on est dans l'actualité, vous avez tragiquement raison, il y a une violence qui est due au langage totalitaire, où certaines populations apprennent à se soumettre à un récit qui n'a plus aucun rapport avec la réalité. Et là, on voit que ce qui se passe actuellement en Israël, ce qui se passe aussi dans d'autres pays, chaque fois qu'il y a un langage totalitaire, des populations entières se soumettent à ce langage et commettent des crimes atroces sans aucune culpabilité. J'ai commencé ma vie avec le crime nazi, et j'arrive aux dernières années de ma vie avec les crimes du Hamas, qui sont de même nature. C'est-à-dire que le crime nazi, les nazis commettaient des crimes immenses, incroyables, sans aucune culpabilité, et on voit qu'actuellement, le Hamas commet des crimes d'une atrocité stupéfiante, sans aucune culpabilité, parce qu'ils sont soumis à un régime totalitaire. Alors ça, c'est une violence humaine. Les animaux et les hommes peuvent devenir violents par une dysfonction éducative. Et en revanche, les hommes seuls peuvent devenir d'une extrême violence en se soumettant à un récit totalitaire coupé de la réalité sensible.
Alors il y a deux notions qui me semblent importantes. La notion de la mort. Pourquoi tue-t-on chez l'animal ? Chez l'homme, et déjà dans la Bible, il y a des épisodes évidemment de guerre, de sang, de carnage.
Mais oui, alors c'est ça. Alors on tue parce qu'on est en défense, hein, c'est ce qui se passe actuellement pour les Israéliens qui malheureusement tuent des Palestiniens parce que les Israéliens sont en légitime défense. Mais il y a une autre source de la violence qui existe depuis que les êtres humains sont sur Terre, c'est-à-dire, puisqu'on parle, on est capable de se représenter un monde totalement impossible à percevoir. C'est ce que Teilhard de Chardin, chrétien jésuite, proposait d'appeler le monde noétique. C'est un monde de pensées qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité. Alors ça peut être une créativité, un roman, un essai philosophique, ça peut être une merveille de la condition humaine, la créativité scientifique aussi, et en même temps, cette aptitude à créer un monde impossible à percevoir crée le monde du délire social. On voit que beaucoup de gens, depuis l'aube de l'humanité, se soumettaient à l'idée qu'ils se faisaient des autres et non pas à la connaissance qu'ils en avaient. Et là, on voit des guerres de religion, des guerres de croyances, croyances religieuses ou croyances économiques ou croyances philosophiques. Et dans ce cas, la tragédie, c'est que rien ne peut arrêter cette violence-là qui est profondément humaine, parce que c'est du domaine de la croyance, ça n'est plus du domaine de la perception, ça n'est plus du domaine de la raison. Et on voit que ces crimes, autant actuellement les bombardements israéliens tuent des Palestiniens, parce que les Israéliens sont en légitime défense, et j'espère qu'ils sauront freiner cette violence contre les Palestiniens, qui sont soumis à un régime, à un langage totalitaire, à une dictature incroyable, et les Palestiniens payaient déjà avant en se soumettant à cette dictature, et ils payent encore maintenant en étant soumis en même temps à la dictature du Hamas et au bombardement israélien. Donc ça veut dire que l'intérêt des Palestiniens, l'intérêt des Israéliens, c'est quand même de détruire le Hamas, de façon à pouvoir établir des rapports démocratiques. Je ne suis pas un grand politicien, mais il me semble qu'une solution à deux États s'impose. Et dans ce cas, je rêve à voix haute, mais peut-être on pourra voir apparaître une association, une coopération entre les Palestiniens, les pays arabes et Israël, comme certains pays arabes commencent à accepter cette orientation.
Alors, une question naïve de ma part. Est-ce que tous les penseurs actuels, vivants, qui ont tant d'audience, qui publient, qui sont interviewés, donc des voix que l'on écoute, des voix que l'on respecte, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, vous avez évoqué une sorte d'association, est-ce qu'on ne pourrait pas évoquer une sorte d'association des sages polyphonique et polymorphe de ce monde, de quelle religion que ce soit, de quelle nature, des quelques voix qui vous vous rencontrez entre vous et vous mettez au point quelque chose, une arme pacifique, un outil de guérison.
Madame Chouchana, vous reprenez les mots de Romain Rolland quand il avait publié après la guerre de 14-18 « Les hommes de bonne volonté ». Il faut qu'on fasse ce que vous venez de dire. Alors vous appelez ça une association de sages. Il y a des sages chez les Palestiniens, il y a un islam des Lumières, je suis en médecine, en psychologie, en littérature, je suis entouré de musulmans très fréquentables qui créent, qui embellissent la culture française. Il faut donner la parole à ces musulmans-là, mais il faut détruire ceux qui fabriquent la haine. Parce que là, ça provoque un sentiment que rien ne peut arrêter, surtout pas la raison. Alors il faut que les sages, comme vous le dites, s'associent pour faire entendre leur voix, mais Romain Rolland avait publié après la guerre. Parce qu'avant la guerre, il y a une complicité des extrêmes. On voit que les extrêmes communistes ont effrayé les bourgeois qui se sont précipités dans les bras du fascisme, qui ont persécuté les ouvriers, qui ont réagi vigoureusement, ce qui a effrayé les bourgeois, et on a vu une spirale qui a abouti à l'effondrement et à l'explosion de 1939. Il y a une complicité des extrêmes. Et au Proche-Orient, et en France, et actuellement sur la planète, on donne trop la parole aux extrêmes de tous les bords, extrême droite et extrême gauche, qui s'associent pour nous mener à la déflagration. Est-ce qu'on va accepter ça? Alors bien sûr, Romain Rolland et Madame Chouchana ont totalement raison, mais est-ce que vraiment on aura une voix assez portante? Je crois qu'il faut le faire, parce qu'on ne peut pas se taire. Donc il faut le faire. Est-ce que ça sera suffisant? Je crois qu'il faudrait que les politiciens, ceux qui nous gouvernent, acceptent d'apprendre à parler autrement. On voit que c'est une extrême droite, et c'est vrai en Israël aussi, une extrême droite qui s'oppose à l'extrême gauche et qui se font complices d'une spirale catastrophique qui nous mène à la catastrophe comme on est en train de le voir. Alors autant votre remarque, je l'approuve, elle est nécessaire, mais peut-être elle n'est pas suffisante. Il faut aussi faire taire tous ces langages totalitaires, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, parce qu'ils nous mènent à la spirale catastrophique.
Alors là, je prends une phrase extraite de votre dernier livre, « 40 voleurs en carence affective, bagarres animales et guerres humaines », qui vient de paraître aux éditions d'Il Jacob. Il y a cette phrase « Einstein écrit que la guerre est due à un appétit de pouvoir » qui provoque une pulsion de haine. Et Freud répond qu'il s'agit d'une pulsion de mort d'origine organique. C'est chevillé au corps.
C'est chevillé au corps, dans le premier cas, bagarres animales et bagarres humaines, c'est chevillé au corps parce qu'une carence développementale provoque une dysfonction cérébrale qui fait que c'est les hommes, plus que ces femmes, ne peuvent pas contrôler l'expression de leurs émotions. Donc ils passent à l'acte, c'est la bagarre que les hommes et les animaux partagent. En revanche, ce que les hommes et les animaux ne partagent pas, c'est le langage totalitaire. Alors, le langage totalitaire, ce sont les mots qui modifient le fonctionnement cérébral. Donc d'où l'importance d'attacher de l'importance à cette manière de parler que tous nos hommes politiques manifestent actuellement. Si vous ne me croyez pas, regardez le langage des extrêmes. Il n'y a que de la haine. Regardez à la télévision comment les hommes et les femmes, politiques se parlent. Il n'y a qu'un langage de haine. Vous avez employé le mot sagesse tout à l'heure. Où est la sagesse là-dedans? Il n'y en a pas. Chez les animaux, quand une bagarre se déclenche, il y a des rituels qui permettent de contrôler l'émotion. Un chien attaqué par un autre chien ou un loup attaqué par un autre loup se couche sur le dos et offre de lui une image où il n'y a aucun signe d'agression. Il n'y a pas de dents, il n'y a pas de griffes, il n'y a pas d'armes. Et ce rituel comportemental arrête l'agression de l'autre loup. Donc il y a des rituels d'interaction qui permettent chez les animaux de contrôler la violence. Ces rituels d'interaction chez les êtres humains existent aussi, mais ils sont appris par l'éducation. Et ce matin, j'avais une réunion avec une doctorante qui me disait « Les petits garçons de notre culture française ne sont plus structurés par le milieu. Ils n'apprennent pas ces rituels d'interaction. Ils ont de plus en plus un retard de langage. Ils ne font que des gestes, des mimiques. Et ils ne comprennent plus les mimiques de leur mère, de leurs parents. » Et là, il y a une catastrophe anthropologique qui est en train de se préparer, qui est particulièrement net aux États-Unis, où les enfants deviennent d'une violence, les garçons plus que les filles, deviennent d'une violence extrême. J'ai travaillé au Japon, où les garçons, pour ne pas être violents, décrochent complètement. Alors, pas les filles. Les filles continuent à se socialiser. Il y a donc un problème éducatif planétaire, ou bien on n'apprend plus à nos enfants, aux garçons surtout, à établir des rituels d'interaction. On ne peut pas tout se permettre avec une fille, avec un autre garçon. On ne peut pas tout se permettre. Il faut apprendre à parler et il faut apprendre des rituels de politesse, ce qui ne se passe plus du tout dans la culture occidentale. Il y a des cartographies de la violence qui sont faites et on voit que cette cartographie, elle est extrême dans les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'un processus de décivilisation est en train de se mettre en place qui apprend aux garçons la violence. Est-ce qu'on peut laisser faire ? Est-ce qu'on peut continuer? Donc c'est déjà arrivé en France après la guerre de 70, les instituteurs apprenaient la violence aux garçons. ça a donné la guerre de 14-18. Et après la guerre de 14-18, les écoles allemandes et les écoles françaises apprenaient la violence aux garçons. C'est-à-dire que j'ai connu ça après la guerre de 40, que j'ai subi de plein fouet. Après la guerre de 40, quand pour la première fois j'ai été au lycée, j'avais 10 ans et demi, j'avais pas le droit d'aller à l'école avant, et vous savez bien pourquoi. J'avais pas le droit d'aller à l'école, j'aurais été arrêté, comme dans Louis Malle, comme Louis Malle avec qui j'ai correspondu, le meilleur film merveilleux avec Au revoir les enfants. J'ai connu, on nous disait, vous ne traverserez pas la vie sans connaître une guerre et plusieurs bagarres de rue, vous devez vous y préparer. L'éducation, apprenez la violence aux garçons. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Alors ça, c'est la violence éducative. Une carence éducative fait que les garçons, plus que les filles, n'apprennent pas à contrôler leur violence. Et quand toutes les cultures, absolument toutes les cultures, ont utilisé cette vulnérabilité des garçons pour en faire des guerriers, pour leur apprendre la violence guerrière. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Et puis, comme nous, êtres humains, alors ça, on ne le partage pas avec les animaux, nous, êtres humains, on parle, et grâce à nos paroles, et surtout grâce à nos récits, on est capable d'inventer un monde totalement impossible à percevoir. C'est le monde du racisme, c'est le monde de l'antisémitisme. On se fait de l'autre une idée effrayante qui légitime qu'on les tue. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'a fait et continue à faire le pays arabe et un grand nombre de, c'est ce qu'a fait le Hamas et un grand nombre de pays arabes qui entourent Israël. Si Israël tombe, ce qui n'est pas impossible, si Israël disparaît, il y aura dans toute cette part du Proche-Orient, il n'y aura que des dictatures religieuses. Il n'y a pas d'argument possible, c'est pas rationnel. Ce sont des guerres de croyances. Comment va-t-on faire? Ça veut dire qu'il va y avoir sur la planète un envahissement de récits totalitaires où ces gens vont être les enfants, les garçons surtout, les filles s'y mettent actuellement, mais beaucoup moins que les garçons. On va voir sur la planète entière se répandre un désir d'imposer cette loi de délire religieux de toutes les religions, de délire religieux qui justifie la mort des autres. C'est un blasphème. Quand quelqu'un emploie le mot blasphème, c'est qu'il est en train de légitimer la mort qu'il s'apprête à donner. Est-ce qu'on va laisser faire ces gens-là? Donc il y a un problème anthropologique qui ne concerne pas qu'Israël, qui concerne Israël, les pays arabes, et qui concerne même la planète entière, puisque la spiritualité fait partie de la condition humaine. Tous les hommes, tous les êtres humains, hommes et femmes, parlent à Dieu. Ce qui est un bénéfice, ce qui est une gloire de la condition humaine. Mais si ce récit est détourné pour en faire un récit raciste, antisémite ou de haine, on va encourager les garçons et on va les préparer à la guerre.
Alors il y a aussi une question qui se pose, pourquoi, qu'est-ce qui est à la racine de l'exclusion de l'autre? Qu'est-ce qui est à la racine de ce sentiment que certains ont? Des enfants dans une école, le sentiment d'être étranger, d'être exclu, dont le harcèlement. Pourquoi la haine de l'étranger? L'exclusion, la haine de l'étranger.
Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est un défaut, c'est une maladie de l'empathie. C'est-à-dire que l'empathie, c'est l'aptitude à se décentrer de soi pour se représenter le monde des autres. Il n'a pas la même couleur de peau que moi, et pourtant, moi, petit garçon de 6 ans, 8 ans, 10 ans, j'apprends à me décentrer de moi pour m'intéresser à la culture africaine. C'est intéressant, c'est surprenant, c'est parfois irritant, mais voilà, ils existent, c'est un enrichissement et c'est parfois une irritation. En démocratie, on a le droit de ne pas être d'accord, on se dispute souvent. mais on ne veut pas la mort de l'autre. On se dispute, on dit ce qu'on pense, il y a des lieux de parole, et ensuite il y a un vote qui permet de passer un contrat de quelques années et qu'on remet en cause au bout de quelques années. Donc ça permet de contrôler la violence, de contrôler la haine, parce qu'on a, dans quelques années, si on n'est pas d'accord, on pourra voter pour un autre récit, un autre projet social. Alors, il y a actuellement, dans toutes les écoles, surtout aux États-Unis, en France, en Italie, il y a beaucoup de rapports qui tombent où on voit que l'empathie s'arrête. Et les filles sont un peu plus douées, peut-être même beaucoup plus douées pour l'empathie que les garçons. Et cette vulnérabilité des garçons est utilisée par des politiciens qui, eux, sont criminels. Alors, il y a une pédagogie de l'empathie. C'est-à-dire le théâtre, la parole, le théâtre, dans la fonction grecque, dans la Grèce ancienne, le théâtre avait une fonction de démocratie, c'est-à-dire que les comédiens jouaient sur la scène les problèmes de la cité, et les citoyens ont fermé les portes, et les citoyens devaient débattre de ces problèmes, et ensuite on passait au vote. La disputation, les Espagnols faisaient ça très bien, la disputation la plus célèbre, c'est la disputation de Valladolid, où on voit qu'il y a eu un débat entre religieux pour savoir si les Indiens avaient une âme. Ils ont eu une âme, il y a eu un vote, ils ont eu une âme de justesse. Dès qu'ils avaient une âme, ils avaient donc un dieu, un autre dieu que les chrétiens, mais puisqu'ils avaient un dieu, c'était donc respectable, on ne pouvait plus les atteler comme des bœufs, on ne pouvait plus les dépecer, on ne pouvait plus les tuer sans culpabilité, c'était des êtres humains différents de nous, c'était pas la même religion, c'était pas une religion chrétienne, et pourtant elle était respectable, et ça a complètement changé l'évolution de la culture. Or, actuellement, regarde, il n'y a plus de lieu de disputation. Ces lieux de disputation, c'est l'art, c'est le théâtre, le cinéma, les romans, les essais philosophiques, psychologiques, où on doit ne pas être d'accord. On a gardé notre liberté intérieure, on doit la garder. On peut ne pas être d'accord, mais il faut accepter les arguments de l'autre, chercher à les comprendre, se décentrer de soi. Donc il y a une pédagogie de l'empathie qui n'est pas développée actuellement dans les écoles, mais les enfants entrent à l'école avec un arrêt de l'empathie qui est provoqué par l'éducation précoce, par les 1000 premiers jours et par les excès d'écran. C'est-à-dire que les enfants n'apprennent plus à parler de manière tragique. Ils ont un retard de langage énorme, surtout les garçons. Les filles parlent plus tôt que les garçons, elles parlent mieux, elles sont donc plus faciles à socialiser. Elles ont plus d'empathie, elles se décentrent d'elles-mêmes pour s'occuper d'un autre, pour s'occuper, se préparer à s'occuper d'un enfant. Actuellement, il y a tout un mouvement culturel qui juge mal les femmes qui veulent s'occuper d'autre chose que d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, alors que, on voit toute une culture qui facilite l'arrêt de l'empathie. Alors que je pense qu'au contraire, si on veut arrêter ces guerres de haine par langage totalitaire, le plus sûr moyen, c'est la pédagogie de l'empathie qui est possible. J'ai participé à des commentaires avec des délinquants et sociaux et des délinquants sexuels. Quand on arrive à déclencher un processus d'empathie, ce qui n'est pas compliqué, ce qui n'est pas si difficile que ça, on voit évoluer, et à ce moment-là, on peut apprendre aux enfants à contrôler la violence et même à découvrir la richesse d'une autre culture, d'une autre religion, mais ça n'est pas fait encore dans les écoles et surtout dans la culture.
Alors, revenir avec vous sur le rôle du langage dans le développement de l'être humain, il y a la pensée abstraite qui nous a permis de représenter des choses à faire, à améliorer, l'outil, prolongement de la main. Cette pensée abstraite que vous caractérisez comme la noosphère, c'est pour l'être humain une possibilité de créativité lorsque cette créativité s'intéresse au réel, mais il y a aussi le délire lorsque on s'intéresse à quelque chose qui n'est pas dans la réalité de notre univers.
Mais oui, alors ce raisonnement que vous venez de tenir Je l'ai lu pour la première fois dans un jésuite, Teilhard de Chardin. Et ça m'a paru très convaincant. Mais quand Teilhard de Chardin a proposé ça, il était en même temps évolutionniste, c'est-à-dire que le Collège de France lui avait proposé un poste de professeur, et comme il était jésuite, sa hiérarchie religieuse de l'époque, le pape lui a demandé de choisir. Si vous entrez au Collège de France pour défendre les théories de l'évolution, vous serez excommunié, et il a choisi de rester jésuite, donc il n'a pas accepté son poste au Collège de France. Le pape suivant, je l'ai publié, j'ai eu son accord, le pape suivant a dit « les théories de l'évolution sont pertinentes ». C'est plus que des théories, c'est même sa phrase, c'est plus que des théories, il faut apprendre à observer. Et l'observation, de manière assez étrange, a été souvent critiquée. Bacon, un philosophe anglais, a été mis en prison pour avoir dit qu'il fallait observer. Quand j'ai commencé à travailler sur les interactions précoces en 1980 à Toulon, j'ai été très agressé par des psychanalystes et par des scientifiques qui me disaient « vous n'avez pas le droit d'observer des enfants ». Les enfants ne sont pas des objets de science. Alors bien sûr, les enfants ne sont pas des objets de science, mais c'est la science qui a démontré à quel point les enfants étaient des petites personnes en cours de développement bien plus tôt que ce qu'on croyait. Et ça a donné la commission des 1000 premiers jours, dont l'importance est capitale pour l'accès à l'empathie et à la parole. Tous nos enfants n'accèdent à la parole qu'au cours entre le 20e et le 30e mois. C'est l'explosion de la parole. Pourquoi pas dès la naissance? C'est qu'il faut d'abord une maturation cérébrale pour que se préparer à la parole en pointant du doigt, en faisant des gestes, des mimiques, et ensuite qui prépare à la maîtrise de la parole. Dès l'instant où un enfant rentre dans le monde des mots, il débarque dans une autre planète. Alors là, les animaux, bien sûr, n'ont plus rien à dire. Même si les animaux familiers comprennent un très grand nombre de nos mots. Mais là, c'est vraiment la caractéristique humaine, la merveille humaine, c'est le monde de l'artifice. Artifice des objets techniques, Internet, le cinéma, le silex taillé, les armes qui sont la merveille humaine, la science, l'hypothèse scientifique. Mais ensuite, il y a une méthode scientifique, c'est-à-dire qu'on fait une hypothèse qui représente sur l'idée qu'on se fait d'un problème. Donc, c'est coupé de la réalité. Mais ensuite, les scientifiques ont une méthode qui doit être manipulée, qui doit être de façon à être validée ou invalidée. C'est comme ça, c'est pour ça que la science évolue tout le temps, alors que la croyance n'évolue pas. Il y a une vérité qui tombe du ciel, ou qui tombe du chef, ou qui tombe du gourou, et cette croyance n'évolue pas. Ceux qui n'ont pas cette croyance méritent la mort, disent les fanatiques, disent les gens du Hamas, disent tous les fanatiques, quelle que soit la cause de leur fanatisme. Ça peut être un fanatisme religieux, ça peut être un fanatisme économique, hein, on a connu ça avec Ceausescu. Quand j'ai travaillé en Roumanie, j'ai vu ce que donnait le fanatisme économique. Ça peut être un fanatisme philosophique. Là, on n'est plus dans la méthode expérimentale. Donc on sait ce qu'il faut faire pour provoquer des débats passionnants, créatifs, de technologie, de récits, récits religieux, spirituels, ou même récits religieux. Je fais une grande distinction entre la spiritualité et la religion. Tout être humain a accès à la spiritualité puisqu'il parle. La religion, c'est beaucoup plus culturel. Si vous arrivez au monde en Égypte aujourd'hui, vous avez une probabilité de devenir musulman bien plus grande que de devenir bouddhiste. C'est-à-dire que le fait d'établir des relations affectives avec votre mère va vous permettre d'accéder à la langue maternelle. Et quand vous accédez à la langue maternelle, vous apprenez la religion, sa religion. Apprendre la religion de sa mère, c'est lui faire une déclaration d'amour. Je veux habiter le même monde de représentation que toi. Donc ça, c'est respectable, c'est même la merveille humaine. Ce qui n'est pas respectable, c'est de se soumettre à un récit délirant qui condamne l'autre parce qu'on se soumet à l'idée qu'on se fait de l'autre. Et ce que je viens de vous dire là, la neuroimagerie le précise. Par exemple, on a fait des neuroimageries à des gens qui étaient racistes et qui nous expliquaient « les Noirs ne pensent qu'à violer nos femmes ou à nous agresser ». Et il faut reconnaître que les Noirs sont physiquement très, très costauds, c'est même des athlètes stupéfiants. Donc si on a peur des Noirs, on pense qu'ils vont violer nos femmes et nous agresser et être délinquants. Or, quand les gens ont cette croyance, on voit une zone cérébrale précise, l'amygdale rhinencéphalique, qu'on voit sans difficulté en neuroimagerie, qui c'est le socle neurologique des émotions intenses et insupportables. C'est-à-dire que des gens racistes se soumettent à cette croyance qu'ils ont des Noirs qui allument leur amygdale rhinencéphalique, qui font qu'ils éprouvent des émotions intenses, qui préparent et qui légitiment leur passage à l'acte. Je me fais une idée délirante des Noirs, ils ne pensent qu'à violer et à nous attaquer. Cette idée délirante me déclenche en moi des émotions que je ressens dans mon corps. Et j'exprime mes émotions par un passage à l'acte raciste, c'est-à-dire que les mots façonnent le cerveau. Et ça, on le voit sans difficulté, les mots parlés façonnent la zone antérieure de la sylvienne antérieure, là c'est un peu technique, mais tous les neurologues comprennent, les mots entendus façonnent une zone postérieure, les mots lus façonnent une zone plus près des images, et quand j'ai travaillé au Japon, j'ai découvert que quand il y avait un accident vasculaire cérébral chez un Japonais, il devenait aphasique dans notre système de signes latins, mais il continuait à lire et à écrire dans son système de signes d'idéographie plus proche des images, donc qui n'était pas altéré par l'accident vasculaire. Donc on a la preuve neurologique photographiée et mesurée que les mots façonnent notre cerveau et bien sûr déclenchent des émotions. Si on a développé l'empathie, si on peut partager ce qu'on croit avec un autre, discuter, être d'accord, pas d'accord, l'emmener au cinéma, tu crois que les Noirs sont des êtres violents, on va t'emmener au cinéma et tu vas voir à quel point ils inventent des cultures, comment ils s'occupent de leurs enfants. C'est une autre culture passionnante. Tu n'es pas obligé d'être toujours d'accord, mais c'est une autre culture qui a ses points de merveille comme notre culture. On vient de développer l'empathie. Et à ce moment-là, on ne se soumet plus à un langage totalitaire. Le langage totalitaire agit sur le cerveau. Mais on a une possibilité, par l'éducation, on peut apprendre à nos enfants les rituels d'interaction. Tu ne peux pas tout te permettre. Tu dois apprendre les rituels de politesse. Tu dois apprendre à parler. L'interdit est une structure affective qui socialise. Si tu acceptes d'intérioriser des interdits, tu n'auras que des amis puisque tu pourras vivre et jouer avec eux. Tu pourras parler, jouer, te socialiser et aimer en respectant l'autre. Si tu ne t'apprends pas les interdits, eh bien tu seras soumis à ta violence. Violence émotionnelle par carence éducative ou violence noétique provoquée par un récit coupé de la réalité, mais qui agit sur ton cerveau et qui te permettront de tuer sans aucune culpabilité, comme l'ont fait les nazis et comme le font aujourd'hui les membres du Hamas et d'autres candidats dans les guerres qu'on constate aujourd'hui au Proche-Orient ou en Extrême-Orient ou en Amérique du Sud ou aux États-Unis, où on voit des petits garçons à qui on n'a pas appris ces contrôles de la violence. Ils mordent, ils frappent à l'école et on les punit. Donc on leur apprend que la violence physique est un mode de relation humaine. On devrait d'abord les sécuriser, or on les punit. Ces petits garçons donc apprennent à mordre, à bousculer et ensuite à insulter. On voit que dès la crèche, ils font le vide autour d'eux. Et donc cet isolement affectif aggrave leur violence. Ils n'apprennent pas à contrôler leurs pulsions, ni par les rituels, ni par la parole. ça, l'isolement provoqué par leur violence, par leur brutalité, aggrave leur malaise et ils deviennent de plus en plus seuls et de plus en plus violents. Et quand arrive la puberté où les hormones déclenchent des désirs sexuels parfois intenses, ils ne savent pas les contrôler. Ils passent à l'acte et s'il y a des armes, s'ils vivent dans une culture où il y a des armes, ils s'en servent sans aucune culpabilité, soumis à leur rage émotionnelle, soumis à des récits qu'ils ne comprennent pas. Et on voit les tragédies, surtout aux États-Unis, où des garçons rentrent dans des écoles et tuent leurs camarades de classe. On a vu ça en France, il n'y a pas longtemps, quand des très jeunes garçons, 13, 14 ans, sont brûlés, ont mis le feu à leurs écoles, ont attaqué les pompiers, ont attaqué les infirmières, ont attaqué les gens chargés de les aider, et dont le métier consiste à les aider. Ces garçons, 96%, très peu de filles, quelques filles, mais très peu, ces garçons-là attaquent le lieu de leur humiliation. Ils sont humiliés par l'école parce qu'ils sont mauvais. Et ils sont mauvais parce qu'ils ont été isolés. On ne leur a pas appris à contrôler leurs gestes, on ne leur a pas appris à parler. Il y a actuellement un phénomène insupportable où on voit que les garçons, plus que les filles, ont un énorme retard de langage. On sait ce qu'il faut faire. Il faut le faire tout de suite, tout de suite. Et à ce moment-là, on pourra contrôler. Donc ce qui se passe en Israël aujourd'hui, c'est un phénomène anthropologique.
Monsieur Boris Cyrulnik, vous êtes neuropsychiatre, éthologue. Quel regard posez-vous sur votre cursus ?
Alors, le fil rouge, c'est peut-être à cause de mon enfance, persécutée par la Shoah, où j'ai perdu ma famille, j'ai été moi-même arrêté, emprisonné. J'ai réussi à m'évader avec l'aide de Juste. Et ensuite, j'ai retrouvé ce qui restait de ma famille. Mais ça m'a donné une empreinte dans ma mémoire et une rage de comprendre. J'entendais dire autour de moi, si la Shoah a existé, on disait pas la Shoah après-guerre, hein. C'est apparu avec le film de Claude Lanzmann en 1983 ou 85 à peu près. Mais ça, c'était la même idée, désignée par un autre mot. Il fallait que je comprenne pour reprendre un degré de liberté. Si je ne comprenais pas, j'étais soumis. Soumis à la haine des autres, soumis à l'incompréhension des autres, parce que pendant la guerre, il fallait que je me taise, sinon je serais mort, comme dans le film de Louis Malle, et après la guerre, quand je voulais témoigner, les gens éclataient de rire. Vous avez bien entendu, quand je vous racontais ce qui m'était arrivé, les adultes éclataient de rire, parce que c'était impensable. J'ai même entendu « Où vas-tu chercher tout ça ?» où j'ai même entendu « Arrête de te plaindre, nous aussi on n'avait pas de beurre ». J'ai entendu cette phrase et donc j'entendais les explications qui disaient ces explications disaient « La guerre mondiale a éclaté parce que Hitler était syphilitique ». C'est absurde, dans mon esprit d'enfant je me disais comment la maladie d'un homme peut-elle expliquer une guerre mondiale. C'est pas déjà enfant, je me disais, c'est une folie sociale, c'est une folie culturelle. Je le disais pas avec ces mots-là, et je me disais, il faut que je comprenne pour reprendre une petite partie, le plus possible, de liberté. Donc, ça m'a rendu complètement psychiatre, complètement neurologue. Et j'étais grâce à l'éthologie animale qui m'a permis de vous proposer, ou vous m'avez invité, je vous remercie beaucoup, à développer mon idée. On partage avec les animaux les rituels d'interaction, mais on ne partage pas avec les animaux le langage totalitaire. Or, au début, j'étais sur mon sentier de chèvre, parce que beaucoup de gens, des psychanalystes, même des biologistes, me disaient « Pourquoi tu rabaisses l'homme au rang de l'animal ?» Je rabaisse personne, je rabaisse rien à rien. Simplement, on a tous été des mammifères aquatiques, vous aussi, Madame Fouchana. Pendant 9 mois, vous avez été un mammifère aquatique, vous avez respiré avec vos branchies, vous avez été nourri par le cordon ombilical, vous avez dégluti le liquide amniotique de votre mère, vous avez tété son sein en arrivant au monde. On est donc des mammifères, mais dès la troisième année, ou même beaucoup avant la troisième année, on a un langage du corps que nous, que les adultes, un langage de bébé, un langage préverbal que les adultes doivent apprendre. C'est à nous, adultes, d'apprendre comment un bébé s'exprime. Et ça a donné la commission des 1000 premiers jours, avec déjà des réformes qui sont appliquées, réformes légales, congé paternité, c'est pas aussi important que ce qu'on espérait, et réformes culturelles, où on voit de plus en plus de jeunes hommes participer à l'éducation de petits-enfants et d'apprendre à tisser avec leurs enfants un lien d'attachement. Et le bonheur, le sécurisant du lien d'attachement. Avant, les hommes étaient chefs de famille, mais ils n'étaient jamais dans leur famille, et c'était les femmes qui n'étaient pas chefs de famille qui faisaient tout dans la famille. Il y avait donc une absurdité légale, et maintenant on voit des petites réformes, pas suffisantes à mon avis, mais on voit une nouvelle culture des hommes et des femmes apparaître, et là je pense que ça c'est plein d'espoir.
Monsieur Boris Cyrulnik, vous dire que vous m'avez bouleversé, toujours, par vos connaissances, par votre humanité. Alors, ce dernier livre, 40 voleurs en carence affective, bagarres animales et guerres humaines, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, est tout à fait, comme on l'a dit au début, en miroir avec ce qui se passe toujours et maintenant surtout. Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous êtes gentille, Madame Fouchala. Merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Strasbourg Pilote. Arts et Lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange.